Bonjour à tous. Eh bien, on va commencer. Désolée pour les quelques minutes de retard. 10 heures du matin, je crois que c'est un peu dur pour tout le monde. Je suis ravie d'être ici avec vous et puis surtout ravie d'avoir ce magnifique panel d'invités à modérer. Je vais commencer tout simplement par vous les présenter. Juste avant cela, pour ceux qui auraient qui ne parlent pas couramment l'anglais, je dirais, comme nous avons deux invités anglophones, je vous invite à aller juste à côté, la dame qui peut vous faire coucou, voilà, pour prendre un casque, comme ça vous pourrez suivre de façon plus aisée les conversations. Alors je vais commencer tout simplement par présenter rapidement nos invités, qui rajouteront ce qu'ils veulent si jamais ma présentation n'est pas assez précise. Ben, on va commencer dans l'ordre, donc je vais commencer par Daniel Tron, ici présent avec son café, donc tout va bien. Daniel est angliciste, c'est la raison pour laquelle c'est le seul à ne pas avoir les oreillettes sur la tête. Et Daniel est un grand spécialiste du cinéma de science-fiction, de Philippe K. Dick, et a travaillé également sur Rudyard Kipling. Et ça tombe bien puisque le thème d'aujourd'hui, ça va être l'enchantement de la technique, et il a particulièrement travaillé là-dessus. Robert Charlebuisson, je ne sais pas si c'est encore la peine de le présenter. Il nous vient du Canada. Ah, on me dit que ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un à la technique pourrait venir nous aider pour... Canal 2. Je vais continuer de présenter et on va régler ces petits problèmes techniques rapidement. Donc Charlebuisson, dont le dernier ouvrage qui vient de sortir en français s'appelle Vortex, nous vient du Canada. Et est un spécialiste des grands objets. Pour ceux qui ont lu Spin, par exemple, on a des arcs extraordinaires dont on se demande un peu à quoi ils servent au début de son histoire. Et on en parlera, je pense, un peu plus longuement. Nancy Kress, qui nous vient des États-Unis.
C'est bon, ça marche.
Ok, tout va bien, on va pouvoir fonctionner. Pour parler, n'hésitez pas à prendre des micros, comme ça on sera tranquille.
I didn't hear the question because my translator
wasn't working. Il n'y avait pas de question encore, j'étais en train de vous présenter.
Oh. Bonjour.
Donc Nancy Kress, dont le dernier ouvrage qui vient d'être sorti en français, c'est L'une rêve, l'autre pas, que je vous invite à découvrir, qui est passionnant et qui nous parle de technologie, mais sous un autre regard. Donc on aura l'occasion également d'en parler tous ensemble. Et puis Gérard Klein, est-il besoin encore de le présenter? Bon, on va le faire pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Ça va être difficile d'être court. Gérard est auteur, Gérard est éditeur, Gérard est un spécialiste de l'économie, Gérard est prospectiviste et tellement d'autres choses encore. En tout cas, même si son nom ne vous dit rien, je suis sûre que ses collections vous disent quelque chose, parce que Ailleurs et Demain, cette collection bien brillante, et dans toutes les bibliothèques, et on ne peut pas passer dans une librairie sans ne pas être attiré par ses ouvrages. Donc voilà, c'est lui le responsable de ça, comme des grandes anthologies et de toutes ses préfaces.
Bah, c'est bien moi.
Voilà. Donc le thème d'aujourd'hui est l'enchantement de la technique et de la science-fiction. Et il y a énormément de choses à dire évidemment là-dessus, donc je vais essayer de ne pas trop parler et de laisser autant de temps que possible à nos auteurs et invités. J'avais une première question pour Gérard, malgré tout, parce que je ne sais pas si vous avez lu le descriptif du programme, mais le descriptif du programme avait l'air d'insister sur l'importance du fait de mettre de la magie dans la technologie, dans la technique, quand on écrivait un roman. Et je me demandais si c'était l'une des raisons pour lesquelles tu n'avais pas eu le prix Nobel de littérature, par exemple.
Pour lesquelles je ne l'ai pas encore eu. Il faut d'abord qu'il soit créé, le prix Nobel de science-fiction, hors littérature et hors science, et ensuite qu'il me soit justement décerné. D'ailleurs, j'ai un certain nombre, je crois environ 47 supporters dans le monde qui sont disposés à cette révolution. Bon, ben ça c'est un sujet qui déborde largement le thème de cette table ronde. Alors tu voulais me poser plus spécialement une question.
La question de la nécessité peut-être de mettre de la magie dans la technique pour que ça réussisse à passer dans la littérature générale, je dirais.
Oui, enfin moi j'aime pas beaucoup la cointance proposée entre magie et technologie et science. Je dirais néanmoins qu'il y a un biais par lequel on peut l'introduire. C'est le fait que dans la science-fiction, la plupart des novum, pour reprendre le terme utilisé parfois, sont des objets technologiques, et plutôt que des thèmes proprement scientifiques. Or, ces objets technologiques répondent à un désir. C'est comment satisfaire un désir en employant une méthode empruntée à la science, mais qui prend la forme d'une technique, d'un objet technologique. Or, le désir, c'est bien aussi ce qui est à la source de la magie, enfin au sens courant du terme. Toute la différence, c'est que la magie, ça ne marche pas, tandis que la science et la technologie, ça marche parfois.
Robert Schulwissen, je vous voyais acquiescer. Est-ce que vous avez envie de réagir?
Well, I was nodding in agreement, so no, I don't have a lot to add, but I think that's correct. I was thinking when Gerard was talking about desire, it reminded me of the old movie Forbidden Planet. At the heart of that movie, it seems to me there's a contemplation of the idea of the ultimate end of technology. It essentially imagines a technology so perfect that whatever you desire becomes real in the material world. And the point it makes is that this throws technology back onto the human psyche. If whatever we want, if whatever we desire becomes real, what that means is that you're externalizing the interior psychological world. It's a technology that throws us back into a world essentially of magic. And it seems to me that that's expressing an interesting paradox at the heart of the idea of technology itself.
Desire lies at the root of all fiction, not just science fiction or magic. People, characters in novels must want something, or there actually isn't much of a story. But I think what happens with science fiction, and one reason it is not taken seriously, and one reason you are not up for the Nobel, is that people are often uneasy with things that they cannot imagine wanting right now, or that seem to complicate the world as they know it right now. When I was doing an autographing session yesterday, I was talking with a Frenchman, a teacher, who was commenting on something I had said on a panel yesterday about genetic engineering, because genetic engineering is a thing that I write about very often. And he was saying that his students, who are about 15 years old on average, are uneasy with the whole idea of genetic engineering, and they don't really like to read about it. They're uneasy with it. And I think that science fiction fans and readers are different from the mainstream of readers in that we are less uneasy with looking at and exploring these possibilities for the future. And this may be one reason why science fiction does not have the kind of status and attention, at least in the United States, that other literature does.
Oui, si je peux rebondir effectivement là-dessus, c'est quelque chose qu'on dit assez traditionnellement quand on étudie la science-fiction, que son problème de reconnaissance, c'est qu'elle est entre, elle est pile poil dans la dichotomie du monde contemporain entre ces deux cultures, entre une culture scientifique et littéraire de l'autre côté, et qu'effectivement, ça demande des gens capables de faire ce pont entre les deux pour les apprécier. J'ai aussi une théorie un peu plus personnelle qui est aussi que la plupart des gens qui font des études littéraires et qui du coup représentent les institutions littéraires sont habitués à utiliser des outils d'analyse textuelle qui se fondent relativement mal dans le type d'imaginaire et d'écriture qu'on peut trouver dans la science-fiction. Mais là, je viens de faire une grosse généralisation parce qu'on a quand même des auteurs qui sans problème réussissent à faire ce pont-là, et c'est peut-être une des valeurs principales de la science-fiction. Et quand on parle d'enchanter la technique, on a toute une série d'auteurs dès les origines qui sont justement capables de faire passer ça, c'est-à-dire de faire passer la magie qu'il y a à la réalisation technique. Si Eric était là, il disait quand même, quand on appuie sur un bouton, l'ampoule s'allume. C'est magique. Et ça marche à chaque coup. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et bon, comme tu l'évoquais tout à l'heure, on peut remontons à Kipling, tant qu'à faire, parce que là, on a quelqu'un qui fait le pont entre les deux. On a quelqu'un qui n'est pas du tout déconsidéré dans l'histoire de la littérature, et effectivement son corpus de science-fiction est peut-être limité à quelques nouvelles, mais elles sont absolument extraordinaires en termes de démonstration. C'est quelqu'un qui est capable de nous faire rêver, je parle bien d'enfants, et de nous enthousiasmer sur le fonctionnement d'un bateau en métal, où il va être capable de personnifier l'ensemble des boulons et d'avoir ce dialogue où ils travaillent ensemble. On a des choses d'une modernité absolument incroyable dans la dernière décennie du 19e siècle, la première du 20e siècle chez Kipling, à ce niveau-là. Et quand on parle de Science of Wonder, au départ, je pense qu'il faut aussi différencier, parce que la science-fiction est une chose vaste, entre des œuvres qui, comme ça, avec des conteurs, avec des gens comme Kipling, qui vont développer Sense of Wonder et qui vont réussir à faire rêver un public non spécialiste à des choses dont ils ne maîtrisent pas forcément la théorie, et des auteurs, peut-être un peu plus ardus à lire pour quelqu'un qui n'a pas du tout de culture scientifique, mais qui vont permettre d'avoir des paliers comme ça. C'est pas clair ce que je dis, je vais préciser. On a d'un côté, des auteurs, on va dire justement, je prenais Kipling parce qu'il est tout à fait représentatif. C'est pas un auteur dont on n'a pas besoin de bagages scientifiques, de bagages techniques pour rentrer dans Kipling. Il y a un talent littéraire, une manière de faire qui permet de rentrer dedans et qui peut me permettre de former tout un public. Et on a des auteurs qu'on va appeler des auteurs de hard science, on va avoir des auteurs plus ou moins complexes qui effectivement vont être perturbants pour un certain lectorat qui vient, on va dire, de la littérature générale ou qui n'a pas du tout de bagage scientifique ou technique et qui a du mal surtout à se visualiser, à visualiser les choses.
Gérard ?
Oui, dans cet esprit, enfin, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'au 19e siècle, en effet, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui, devant un objet technologique, un téléphone, une voiture, un objet existant, à un moment ou un autre, s'émerveille de son existence et de son fonctionnement et se demande comment ça marche. Moi, ce qui me frappe et ce qui m'inquiète, en particulier parmi les jeunes, c'est simplement parce que je suis simplement très vieux, c'est le fait qu'ils se servent de ces objets extraordinaires et tout récents que sont les téléphones, comme si ça avait toujours existé, et sans plus jamais se poser la question du comment ça marche, d'où ça vient, etc. Et ils sont, alors ils ne les considèrent même plus comme magiques. Il n'y a pas l'émerveillement ou l'étonnement qui peut apparaître quand on rencontre un phénomène incompréhensible et proprement magique. Non, ça va de soi, c'est immédiat. Et ça me paraît, en particulier pour nous autres auteurs de science-fiction, très inquiétant. Parce que s'il n'y a plus cette question, cette distance entre un objet mystérieux qui répond au désir, alors que devenons-nous ?
Nancy ?
I think that's exactly right. And I think that that's one reason that in the United States at least, fantasy is far more popular among young people than science fiction. Because when you take for granted the enchantment and wonder of computers, airplanes, cell phones, telephones, when you take all that for granted, you need even a higher level of excitement and wonder to get you interested, and that's fantasy, that's magic, that's wizards, that's the hurling of thunderbolts, that's Harry Potter. You need something like that in order to excite you if you are just taking all of the real excitement of technology for granted. And yet we shouldn't. I flew here on a plane, and when you think about that, I'm sitting in a chair moving through the sky. What could be more magic than sitting in a chair moving through the sky? And yet we do. We take it all for granted. And especially with young people, the popularity of science fiction in the United States has gone down steadily since the 1960s. And that of fantasy has risen as there is more and more magic and less technology. And I think that's too bad, really.
You know, When I first read the title of this panel, I think what struck me was the word enchantment. It seems to me that many of us are still laboring under an old misapprehension, really an 18th century misapprehension, the idea that science reveals to us a clockwork universe that's sterilized of magic, of wonder, of mystery. And that idea made sense up until about maybe 1820, 1830, but it doesn't make sense anymore. Science has revealed to us a world older than we expected and vastly stranger than we expected. It's true that science kind of dismantled a lot of old ideas, but it has given us things like relativity. It's given us things like quantum mechanics. I think quantum mechanics is the first idea to actually be more confusing than the notion of the Trinity. Science has, since in the 20th century, science has been in the business of re-enchanting the world, and we're still playing catch-up with that. And I think one of the tasks of a science fiction writer is to remind us all of how strange the world revealed to science really is, how much deeper and less comprehensible and less intuitive the world is than we expect. And that, it seems to me, is at the heart of the wonder and enchantment that we look at in science fiction.
I want to add something to that. And I said this at the round table yesterday, but I think it also fits here. Science fiction is partly to blame for this. And the reason is, when we write about technology in science fiction, we tend to write about the negative aspects of it. And the reason that we do that is because to write a story, a novel, you have to have something go wrong. You have to have conflict. You have to have problems, or you don't have a story. So when we write about technology, we tend to write about it negatively. And that helps to make people turn away from it, actually, than towards it. But it's built into the problem of writing fiction, which is that you have to have conflict. But I think it's partly to blame for the fact that science fiction is not as popular as fantasy. It's not as sexy because we write about the negative aspects.
Oui, je souscris à ce que vous dites, mais je mettrais quand même un bémol, parce que pendant longtemps, la science-fiction a été populaire, en tout cas a eu un public assez vaste, aux États-Unis comme en Europe, et en particulier comme en France. Et aujourd'hui, en France, en Europe, comme aux États-Unis, ce n'est plus le cas. Il y a eu ce déplacement assez récent qui remonte aux années 80, 1980 à peu près, vers la fantasy. Et puis maintenant, vers quelque chose de pire encore, si on peut imaginer pareille chose, et les histoires de vampires et les histoires de zombies. Alors, je crois que ça reflète des phénomènes sociaux à la fois assez profonds et assez inquiétants. C'est que dans le cas de la science-fiction, toute catégorie de science-fiction confondue, il y avait de façon sous-jacente, à travers le conflit, ou même quand fondamentalement il n'y avait pas de conflit, l'idée d'un effort qui avait été accompli, qui avait été entrepris puis accompli, pour obtenir un résultat. Je pense, parce que je le relisais récemment, un auteur américain pas tout récent qui est Weinbaum. Et cette dimension de l'effort y est très manifeste. Enfin, elle le reste après. Avec la fantaisie post-tolkienienne et avec les Harry Potter, par exemple, que sur le plan littéraire, toute proportion gardée, d'ailleurs j'apprécie, je parle des Harry Potter, il y a cette notion d'effort disparaît pour faire place à une prédestination. Donc, on fait complètement sauter la dimension de l'acquisition d'une connaissance du héros américain qui s'approprie un domaine de savoir et qui en tire des conséquences pratiques, héros qui se retrouve sous des modalités diverses aussi en Europe et en particulier en France. Bon, c'est remplacé dans le cas de Harry Potter par le gamin qui échappe à la médiocrité de son milieu. En français, on appelle ça les moldus, parce qu'il a un don. Donc, ce n'est pas fondamentalement quelque chose qu'il acquiert, même si ensuite il doit faire des études pour le développer, etc. Mais ça lui tombe du ciel. Et d'une manière ou d'une autre, dans ces littératures qui ont largement supplanté la science-fiction, ça tombe du ciel ou ça vient de nulle part. L'effort humain a disparu. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît très inquiétant et en même temps significatif de phénomènes sur lesquels j'ai quelques idées, mais enfin qui seraient peut-être un peu longues à exposer ici.
Est-ce que vous avez envie de réagir à ce que vient de dire Gérard ?
Well, it's. I don't think it's true that there was an age when science fiction literature was immensely popular. It's been more popular than it is now, I suppose. But when I first started reading science fiction, it was regarded as a pariah literature, and we talked about the science fiction ghetto. So, in a sense, it seems to me we've always been a minority taste. I don't know why that is exactly. Maybe it may simply be because science fiction, reading science fiction correctly, requires a certain attitude toward the sciences and toward the universe that people simply don't like. A lot of people don't like taking the long view. A lot of people don't like stepping outside their own perspective. A lot of people like to be reassured by their literature rather than questioned by it. It may mean that science fiction as a literature will always be a minority taste, but I don't really see a problem with that. I don't feel like I'm competing with Harry Potter. I don't feel like I'm competing with the Twilight series. I feel like those really are different genres. I don't blame people for liking them. I don't blame people for reading Westerns or romance novels. It's just not what I write. It's not what I read. And I'm happy with that. As a writer, it's enough to have an audience. I don't need everyone in the world to be my audience.
Well, I'm not happy with it. I would like that audience. But I want to disagree with you, Bob, that science fiction has always been a ghetto, because this is, in the United States at least, this only happened when Hugo Gernsback started his magazines, ran out of Jules Verne to republish, ran out of H.G. Wells, and started looking around for some sort of fiction, most of which was absolutely dreadful and paid really dreadful. And when he started his magazine in 1926, that's what was available. But that was not the path in other countries. In England, 1984 and Brave New World and Clockwork Orange were not considered as separate kinds of novels. They were just brought out as regular publishing phenomena and regular novels. And there was not this kind of division between a science fiction novel, there is now, but there wasn't in England then, between a science fiction novel and a regular literary novel. That developed in the United States because of Hugo Gernsback and his really dreadful taste and what he could get for stories in his early publications. In the fiction of the 1930s, the science fiction of the 1930s in the United States, was referred to as pulp fiction. Pulp being the kind of magazine which was printed on really cheap paper and was very inexpensive to buy. And Brian Aldiss, a historian of science fiction, has said that it was a period where the writing was so bad, all women and no clauses were subordinate. And I think that that had a lot to do with the way science fiction developed in the United States, at least.
Well, that's true, but you have to remember that the pulp literature was a literature of all genres. Cheap pulp literature included science fiction. Literature in general literature or literary fiction, there was also a small minority that you can categorize as science fiction. Science fiction works as YA fiction, it works as adult fiction, it works as pulp fiction, it works as popular fiction, it works as literary fiction, it works as elevated intellectual fiction, but in all those categories we're a minority taste, I think.
I don't know, Kurt, am I on? Yeah. Kurt Vonnegut managed to have his publisher never put science fiction on any of his novels. And as a result, even though they clearly were science fiction, he was able to achieve the kind of audience that I think better writers in science fiction never got.
Well, some of these things are just an accident of the publishing industry. Some of them, I'm not sure that that's intrinsic to the nature of science fiction itself. All I'm suggesting is that there's something about science fiction that means it might not be a universal literature. That doesn't mean that there are works of science fiction that won't have broad appeal. Obviously, there are.
We're done for arguing.
Non, non, c'est très intéressant, simplement. Oui, Gérard.
Oui, alors je voudrais intervenir sur plusieurs points. Comme il y en a plusieurs, j'en ai pratiquement perdu le compte. Je voudrais commencer par dire que s'il est exact que la littérature de science-fiction a toujours été un peu à part, constituée ou enfermée, si on veut, dans une espèce de ghetto, la taille, les contours de ce ghetto ont énormément évolué et sans remonter au déluge au cours de ces 30 ou 40 dernières années. Aux États-Unis, par exemple, à partir des années 1950, on a vu tout spécialement se développer une science-fiction intelligente. Je pense à des revues comme The Magazine of Fantasy and Science Fiction, je pense à des revues comme Galaxy, je pense aussi d'ailleurs à l'évolution d'Astounding devenu analogue. Et en France, nous avons connu à peu près la même évolution et ces littératures ont eu des publics considérables, même si c'était des publics assez singuliers. Ce dont je parlais, qui se passe d'après mes chiffres depuis une quinzaine d'années, c'est bel et bien un déclin. Alors peut-être s'agit-il toujours d'un ghetto, mais le ghetto, il est devenu tout petit. Bon, ça c'est quand même très inquiétant. D'autre part, il y a, même s'il ne s'agit pas de parler de concurrence, il y a bien eu, en particulier auprès des jeunes lecteurs et des jeunes lectrices, un phénomène de substitution. Sur le long terme, les jeunes lecteurs se sont reportés vers les genres dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la fantasy et notamment la fantasy d'après Tolkien, et sur les histoires plus récemment de vampires, enfin, etc. Donc, il y a toujours eu entre différentes formes littéraires, différents genres littéraires, des complémentarités, des concurrences. Ça, c'est pas original, mais là, il y a bien eu et il y a bien en cours encore une substitution. Et là, nous ne pouvons pas nous. Et alors, pourquoi est-ce qu'un jeune qui aurait lu, je prends le cas français que je connais le mieux, plutôt de la science-fiction dans les années 70, lit aujourd'hui plutôt des histoires de zombies, et si c'est une fille, presque certainement histoire de vampires. Il y a une question là.
Une analyse que vous feriez, ce serait le désenchantement de la technique.
Ce serait le
désenchantement de la technique.
Je ne suis pas sûr que ça se pose dans ces termes-là. Bon, ce que je perçois, c'est ce que disait tout à l'heure Wilson, un refus de l'avenir, qui est quelque chose d'ancien, mais qui s'est précisé ces 10 ou 15 ou 20 dernières années, et un refus de la science et de la technique. Bon, je pense, mais d'évider à ma pensée là-dessus serait quand même quelque chose d'assez long, que dans les pays industrialisés, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe, pour faire simple, je ne peux pas parler du Japon parce que je n'en ai pas l'expérience, c'est fortement lié à la mondialisation. La mondialisation est un phénomène globalement très positif. C'est probablement ce qui est arrivé de mieux depuis des siècles ou des milliers d'années à la planète et à l'espèce humaine. Mais il faut bien dire que ça a bouché l'avenir de groupes sociaux, de classes sociales entières dans les pays industrialisés. Donc ils n'ont plus confiance dans l'avenir. Et n'ayant plus confiance dans l'avenir, ils se reportent sur des mécanismes plus archaïques, néo-féodaux dans le cas de la fantaisie, fantastiques enfin au sens premier du terme, dans le cas des histoires de vampires et de zombies. Alors après, on peut faire des analyses plus ou moins fines, est-ce que le zombie c'est l'étranger, enfin ça. Mais il y a une perte de confiance dans l'avenir que par ailleurs, en tant que prospectiviste, je constate très souvent.
Bon, éventuellement, je vais revenir. Effectivement, c'est quelque chose qu'on remarque, il y a eu un désenchantement d'une manière générale du progrès scientifique et technique. Peut-être aussi que la science-fiction a été récupérée par la réalité avec une espèce de bégaiement de l'histoire. On a déjà eu une crise de l'imaginaire science-fictionnel après Hiroshima, où on s'est retrouvé avec des textes extrêmement proches de ce qui était en train de se passer. Mais on sait qu'on a eu une petite période où on a eu un épuisement en fait, par réalisation de ce qui avait été prédit, et que on a effectivement une grande rupture de confiance au milieu du XXe siècle par rapport à la science. On a vraiment un changement de vision. Tout d'un coup, la science n'est plus une chose positive, c'est ce qui va, a priori, nous détruire à un moment. Ça n'a pas été complètement général, mais on a une vraie rupture à ce niveau-là en 1945, et qui a été partiellement récupérée ensuite par l'idée de la science qui va pouvoir régénérer et justement sauver ces erreurs-là. Et on est passé entre les années 70, la fin de la guerre froide, et aujourd'hui, on est passé de deux apocalypses annoncées. Jusqu'aux années 70, jusqu'aux années 80, il y avait énormément de gens qui étaient persuadés que de toute façon, nous allions mourir d'une guerre nucléaire, d'une manière ou autre. Ça, avec la fin de la guerre froide, ça s'est relativement éteint. Relativement. Aujourd'hui, on est persuadé qu'on va mourir d'une crise environnementale. Et il y a une chose moi, qui me frappe dans le désenchantement de la technique, c'est une espèce de repli. C'est-à-dire qu'on a des images en ce moment, mais en ce moment, je veux dire tous les jours, on peut voir des images qui nous viennent de Mars, presque en direct. C'est quelque chose de complètement incroyable. C'est la réalisation fantasmée des rêves d'une génération précédente qui, a priori, n'intéresse que cette génération d'avant et quelques hurluberlus dans mon genre qui trouvent ça absolument fascinant. Mais on a, là, ce qu'on a vécu récemment, c'est absolument extraordinaire. On est en train d'explorer Mars en direct. Et très simplement, je veux dire, j'ai dans la poche quelque chose qui, quand j'ai commencé l'informatique, correspondait à un supercalculateur. Aujourd'hui, j'ai ça dans la poche. J'ai un supercalculateur, je peux me connecter, et je peux me connecter au site de la NASA et avoir en direct les images qui viennent de Mars. Et effectivement, ça ne fait pas un bruit. A priori, tout le monde s'en fout. Et je pense effectivement qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui a changé. Il y a eu une banalisation tellement totale de la technique, c'est pas quelque chose de magique. Et peut-être que là, pour le coup, le fait que pendant un moment, il y a eu un imaginaire de la science-fiction qui, même si le genre littéraire restait quelque chose certainement de minoritaire et encore dans un ghetto, l'imaginaire de la science-fiction, lui, par contre, est devenu complètement quotidien. La crise environnementale, la mondialisation, fait que n'importe qui pense à long terme. On sait aujourd'hui que ce qu'on fait a potentiellement un impact, mais qu'on n'arrive pas encore à voir tout de suite. Mais on sait que chacun d'entre nous a un impact qui éventuellement va se faire sentir à long terme, dans un demi-siècle, un siècle. Je sais quand je me lève le matin et que je ne suis pas particulièrement intéressé par la prospective ou l'économie, que éventuellement ce que font les Chinois de l'autre côté de la planète pourrait très bien avoir un impact sur ce qui se passe ici. On fait aujourd'hui de la prospective, on a tendance à voir le monde à une échelle temporelle et géographique qui, il y a encore 20 ans, était encore l'apanage de la science-fiction uniquement. Aujourd'hui, c'est une manière de penser qui est presque banale, qui est presque quotidienne.
Non, là, je m'inscris pratiquement en faux sur toute la ligne. D'abord, dans les années après 1945, après Hiroshima et Nagasaki, il y a eu une remise en question de la science. Bon. Nous autres savants, nous savons maintenant que nous avons péché. Je crois que c'est Oppenheimer qui disait ça. Bon, il y a eu une remise en question. Mais ces décennies 50, 60, 70 sont en particulier aux États-Unis, mais aussi en Europe, le moment du grand boom de la science-fiction et de toutes les littératures, et d'ailleurs même des revues de vulgarisation scientifique, chose qui s'est tassée après. Donc, non, il y a eu une mise en question. Enfin, un des grands thèmes de ces années, 50, 60, 70, ça a été effectivement dans l'œuvre de Philippe Gadic, par exemple, que je suis en train de préfacer, ça a été précisément la guerre chaude. Ça a été le nombre de nouvelles qu'il a écrites dans les années 50 et 60 sur la réalité d'une guerre nucléaire est extraordinaire. Bon, mais il y a eu un public pour ça. Il y a même un public très, très important pour ça. Donc je m'inscris en faux, d'une part, contre le fait qu'il y a eu une chute après 45, une perte de... Attends, j'ai pas fini. Une perte de conscience, enfin de confiance dans la science. Et d'autre part, comme tu dis que la prospective, aujourd'hui, tout le monde s'y intéresse, tout le monde s'en en fait, etc. Je m'inscris alors là doublement en faux, j'ai ma casquette de prospectiviste sur la tête, parce que jamais nous n'avons rencontré de telles difficultés, ici au moins, pour intéresser les milieux politiques et administratifs à ce genre de sujet. Ça fait 40 ans ou quelque chose comme ça que j'officie dans ce domaine. Ça a toujours été extrêmement difficile. L'avenir a plus de 5 ans, c'est-à-dire la durée d'un mandat électoral n'intéresse personne dans ce milieu. Mais aujourd'hui, ça a pris des proportions cataclysmiques. En réalité, les écologistes en tête, tout le monde se fout éperdument de l'avenir de la planète. Nous sommes une poignée à savoir que ça va aller très mal. Non, mais pour en parler comme ici et faire des effets de manche, facile. Mais quand il s'agit de prendre la moindre décision simplement au niveau d'un tout petit État comme la France, il n'y a plus personne. Bon. Donc, non, disons que il y a 20 ou 30 ans, on arrivait encore à intéresser à des questions prospectives un certain nombre de bons esprits. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. On vous donne un rapport à faire et puis basta. Il y a des tiroirs fermés à clé.
Ah, j'ai eu peur qu'on soit d'accord à un moment. En fait, sur le coup, on est d'accord. Quand je parlais de la crise de l'imaginaire en science-fiction, en gros, il est de 45 au début des années 50. C'est une crise assez, assez limitée. Mais par contre, pour la prospective ou autre, je pense qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. Je veux dire un truc très simple. Moi qui viens de suivre, comme 2-3 personnes, je pense, sur la planète, les élections américaines, un des points, qui n'était pas un des points saillants du débat, mais un des points sous-jacents, c'est, croyez-vous ou non, que le réchauffement climatique est le résultat des actions humaines. Bah, c'est une manière de penser à 1-2 siècles en avance. Je ne suis pas sûr que ce soit si ancien. Alors après, que les politiques ou autres, qu'on n'ait pas forcément d'action concrète, mais dans la manière de concevoir ou d'inscrire son action politique ou la manière de se positionner par rapport au monde, il est aujourd'hui, de fait de la prégnance de ces problématiques-là, normal et tout à fait courant de se poser la question de est-ce que les choix que je fais en tant qu'être humain ou en tant que société sont pérennes ? Est-ce que c'est durable ? Est-ce que dans un siècle, ça va encore être comme ça ? Et où va ma planète à long terme ? Je pense que ce sont des questions courantes.
Plus de 60% des Américains, je n'ai pas le chiffre exact à la décimale près en tête, mais plus de 60% des Américains récusent absolument l'idée que le réchauffement, s'il existe, et pire encore, s'il existe, qu'il est d'origine humaine.
Mais ils y pensent donc.
En France, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a eu une enquête.
Yeah, I'm afraid he's right. In the United States, we argue about these things. They're in the public eye, as you have said, but there is no consensus and there is no action being taken. We're aware of them. We talk about them. They come up in the election, but nothing is actually being done. And we have my country is so large and so fragmented and so strange. That we have a sizable percentage of the population that still hasn't accepted evolution, let alone global warming. So, I mean, yeah, it's one thing to say we're looking at the future, but it's another to say we're actually going to do anything about it. And so far, I would have to agree with you that I don't see a lot of action aimed very long term, except by small determined groups. And we're glad to have small, determined groups that are willing to do this, but it's not enough.
Yesterday at a panel here, I described science fiction as the miracle stories of the Enlightenment, the miracle stories of the scientific worldview, if you like. And I think if you walk into a bookstore, it's rapidly becoming obvious that it's not the popularity of miracle stories that has faded, it's the popularity of the scientific worldview. The crisis, I think, is not in the literature, but in the popular attitude towards science and technology itself. There's a crisis of confidence in our ability to in the essential worth of science. And you see it in things like the rejection of the teaching of evolution and the rejection of the concept of global warming. People have a lot of people have looked at science and said there's nothing there that interests me, there's nothing there I want, and it's inimical to what I prefer to believe. That's the crisis that worries me. The crisis in science fiction is utterly secondary to something as significant as that, it seems to me.
Yes. Yes.
Yeah. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai parlé du déclin. Bon, je parlerai plus spécifiquement de la France parce que c'est le domaine que je connais le mieux, comme écrivain, comme éditeur, enfin, etc., etc. Bon, et comme économiste. Mais il y a eu un déclin donc, dont je parlais, donc je situe le point de départ à peu près au milieu des années 1990, mais le même déclin, et je crois que c'est vrai également aux États-Unis, est observable en ce qui concerne la littérature d'information et de vulgarisation scientifique. Les revues, une revue comme le Scientific American que je lis que depuis que je suis tout petit, n'est plus que le fantôme de ce qu'elle était. C'était une admirable revue où les prix Nobel se battaient pour entrer. Aujourd'hui, ça reste une très bonne revue dont je recommande la lecture. Enfin, elle a perdu la pagination, les articles sont beaucoup plus grand public, enfin, etc. Bon, et si bien que l'édition française qui s'appelle Pour la science est plutôt meilleure. Mais je prendrais un autre indicateur. À la FNAC, boulevard Montparnasse, enfin la FNAC Montparnasse, rue de Rennes plutôt, que je fréquente depuis extrêmement longtemps, je surveille l'étendue du rayon appelé science. Bon. En gros, au cours des 10 dernières années, il a été divisé par 4. Et je pense que dans peu d'années, ça sera une sous-section du rayon ésotérisme qui, lui, n'a pas cessé de se développer. Bon, alors, on ne devra jamais tirer de généralité de cas particuliers. Il se trouve précisément que les économistes et les gens comme moi qui ont beaucoup travaillé dans les enquêtes le font avec prudence. Quand je dirigeais des enquêtes, je lisais toujours les 10 premiers questionnaires, je savais ce qui allait sortir du tout. C'est un peu la même chose avec mon histoire du rayon science à la FNAC, qui est réduit à rien. C'est le quart de la moitié d'une gondole, alors que c'était 3 ou 4 gondoles il y a encore 10 ou 15 ans. Donc les deux déclins, l'intérêt pour la science et donc l'intérêt pour l'avenir à bien des égards, et l'intérêt pour la science-fiction, sont allés de pair. En revanche, alors, le pseudo-développement personnel, l'ésotérisme, enfin, l'astrologie et tout ce qu'on peut imaginer, ça prolifère.
Merci Gérard. J'aimerais bien ouvrir des questions à la salle, peut-être, puisqu'il nous reste, un petit quart d'heure ensemble. Et on est un peu parti loin, finalement, de Kipling. Mais je pense que vous avez récupéré de quoi manger dans cette discussion. Est-ce que certains ont des questions à poser? Est-ce qu'il y aurait un micro? Merci.
Oui, deux remarques. Une rapide à propos de Kipling, c'est qu'il y aurait un autre nom plus récent que j'aurais voulu associer à Kipling justement pour pour le fait de couvrir le gouffre entre les deux mondes, c'est celui de Heinlein, qui a fait la même chose que Kipling.
Heinlein, donc, il cite Kipling comme une de ses influences principales.
Oui, mais il prolonge Kipling, à mon avis, sur ce point. Bon, mais ça, c'est le détail. Le point important, c'est le rejet de la science sur lequel a beaucoup parlé Gérard. Personnellement, j'aurais tendance simplement à dire que le changement de paradigme que révèle ce rejet de la science, c'est le passage d'un paradigme de construction. On construit le monde futur, on a besoin de la science pour ça. Un paradigme que j'appelle personnellement prédation, on prend ce qui est, La magie, c'est prendre des forces qui existent déjà et la préhistoire aussi. Tout est déjà là, on consomme. On est passé de la création à la consommation.
Oui. D'autres questions ?
Oui, j'aurais une question. Parce que, bon, quand on voit l'évolution très rapide et croissante de la technologie qui va sans cesse en progressant avec des interactions avec le vivant, et certains parlent qu'on va approcher cette fameuse phase de singularité dans un très proche avenir, moi je me pose la question en tant qu'amateur de science-fiction depuis des décennies, est-ce que la science-fiction n'est pas en train de se retrouver dépassée par la réalité et ne va pas perdre sa substance, c'est-à-dire va peut-être mourir dans les décennies qui viennent, faute de pouvoir, anticiper.
Gérard ?
Alors, je vous répondrai simplement que je suis un très vieil homme, comme vous savez, ça fait 50 ans que j'entends ça. Bon, alors, c'est... Qu'est-ce que vous voulez ? Je crois que c'était Le Monde, quand, en 69, des astronautes américains ont mis le pied sur la Lune, qui a titré « La science-fiction est dépassée ». Bon, non, franchement, j'y crois pas une seconde. Que cette littérature, finalement, assez mineure, assez limitée, ne lui accordons pas plus d'importance qu'elle en mérite, mais elle en mérite pourtant beaucoup, ait besoin régulièrement de se ressourcer, de se renouveler, ça je suis profondément convaincu. Mais dire qu'elle est dépassée par un environnement technologique qui est certes foisonnant et surtout très présent, non, ça je ne le crois pas, parce que je vous dis, il y a deux choses que j'entends depuis 50 ans. L'autre chose, c'est celle-là. L'autre chose n'a absolument aucun rapport. Mais enfin, dans les années 1950, quand j'étais tout jeune et que j'ai commencé, il y avait à peu près 10% de lectrices et 90% de lecteurs dans le public de la science-fiction. Alors à l'époque, on disait c'est parce qu'on donne une mauvaise éducation aux filles, c'est la faute des poupées, enfin, etc. Aujourd'hui, toutes les indications qu'on a nous disent que fondamentalement, cette relation n'a pas changé. On est peut-être passé, on n'en sait rien, mais enfin, on est peut-être passé à 20% de lectrices. Enfin, ça reste un genre qui est très majoritairement masculin. Comme les garçons apprennent de moins en moins souvent à lire, évidemment, ce n'est pas très bon pour nous. Mais une autre continuité, discours qui est oui, maintenant il y a plein de lectrices. Ben non, malheureusement, chaque fois pour ce qu'on en sait, c'est pas vrai. L'avantage d'être très vieux, il y a énormément d'avantages, croyez-moi, faites comme moi, c'est qu'on a une vue longue du passé et on développe une vue longue, si on est doué pour ça, de l'avenir.
Nancy ?
Yeah, I'd like to say two things on that. I want to agree with you on the first point you raised, that science fiction is not a dying genre. Because as science, you said reality overwhelms science fiction. But as science discovers more and more new things, that means that science fiction writers have more and more things to write about. We now know there are many extrasolar planets. In physics, we are developing really interesting theories of string theory and parallel universes. In biotechnology, as we advance in genetic engineering, the things that we can write about stay ahead of the scientific developments. So no, I don't think that science fiction is going to be overwhelmed by reality. More science simply gives us newer things to speculate about when we write. As for the female question, I don't know what the situation is in France, but in the United States since the 1970s, there was a huge influx of female writers into science fiction. And now CIFWA, the Science Fiction Writers of America, our guild, it's not a union, but our professional guild. I went through the entire CIFWA directory a few years ago, and I counted names. And there's about 45% female writers. It's science fiction and fantasy together. And I think the number of readers has gone up, too. In fact, I was talking yesterday with Ugo that I was surprised to see at this festival that there are not as many women as is usual in an American science fiction convention. Among the writers and among the fans both, in the United States at least, there are many, many more female attendees and writers than I'm seeing here. I know this is only a small percentage sample of what I would see in France, but I don't think that any longer it's an exclusively male province in the United States.
Si l'on regarde le panel de cette conférence, si on regarde dans la salle, manifestez-vous les filles? Bon, on n'est pas à moitié-moitié, mais on est un peu plus de 10%, je pense. Alors effectivement, là, on a des amateurs, hein, mais c'est de ça qu'on parlait.
Je pense en tout cas qu'il faut pas qu'on peut pas comparer le pourcentage des auteurs masculins et des auteurs féminins à celui des lecteurs et des lectrices. Hein, ça n'a vraiment rien à voir. D'autre part, Nancy, je crois que vous mettiez fantasy et science-fiction dans le même sac, ce qui n'est pas tout à fait ce dont nous parlions. Un point sur lequel je voudrais insister, c'est à quel point la science profonde, mais qui est une science difficile, a réenchanté le monde, et spécialement ces 20 ou 30 dernières années. Les phénomènes d'intrication quantique, par exemple. Le changement radical de représentation de l'univers et de sa dilatation, l'expansion de l'univers qui est intervenue dans les années 90, etc. Bon, il y a eu, on a pu parler à la fin du 19e siècle ou au début du 20e, en tout cas dans la bonne société littéraire conventionnelle, de désenchantement du monde par la science. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a au contraire, et depuis longtemps, hein, c'est pas depuis avant-hier, un réenchantement. Seulement, il y a un prix à payer. Ce réenchantement demande une compréhension, un certain intérêt, une certaine compréhension de ce qui se passe effectivement dans la science, et ce n'est pas extraordinairement facile.
Merci Gérard. Il y a deux questions, j'avais vu deux questions. Je propose qu'on prenne les deux questions et qu'ensuite on y réponde. Allez-y, posez votre question, monsieur, et monsieur ensuite.
Oui, bonjour. En fait, je suis un jeune lecteur de science-fiction, de fantasy, et j'ai une formation scientifique de base, parce que je suis ingénieur. Donc, j'adore les deux aspects, et je m'intéresse aussi au développement personnel. Et moi, le questionnement qui m'apparaît quand je vois l'intérêt des jeunes plutôt à la fantasy que la science-fiction, c'est peut-être qu'on est face à une crise sociétale qui nous oblige à nous poser des questions sur comment on se projette dans le monde, comment on se voit dans le monde, et quelque part, comment on se voit nous-mêmes. Et comment nous sommes. Et c'est peut-être cette crise sociétale qui fait que les jeunes s'intéressent plus à la fantaisie, qui pousse plus à des relations dans des sociétés peut-être un peu moins évoluées technologiquement que dans la science-fiction. Donc voilà, c'est ma perception. Je voulais voir si vous pouviez réagir là-dessus.
Je vais prendre la deuxième question et on va essayer de répondre en même temps parce que malheureusement, il ne nous reste plus très longtemps. Monsieur, devant.
Oui, bonjour. J'ai remarqué quelque chose. Vous parliez d'auteurs féminins pour la science-fiction. En général, c'est plutôt de la fantaisie que de la science-fiction pour les femmes.
Bon, d'accord, merci. Donc on a une question qui revient sur le genre, on dirait, des auteurs. Et l'autre question qui posait la question sur l'impact, les relations entre la technique et la société. Qui veut répondre?
Well, let me just say that we're going to have a panel on women in science fiction Sunday morning, and we can take up the gender issue there in greater detail, because I have a lot to say about this, but I will save it for Sunday.
Just as an observation, it seems to me that when there was a kind of crisis of confidence in science fiction at the end of the 60s, it was, in many cases, female authors who stepped in and reinvigorated the field. I'm thinking of authors like James Tiptree and Ursula Le Guin. But not only that, it was a time when the subject of gender as an appropriate subject for science fiction opened up new possibilities for us, too. And you see that in the works of people like John Varley. So the gender question is complex, but I think it's... The openness toward not merely the participation of women, but the entire subject of gender and gender orientation has been a huge expansion of the available subject matter of science fiction over the course of the period of my life when I've been reading it.
Gérard, tu auras, oui, je pense, le mot de la fin, 2 minutes.
Bon, alors, en ce qui concerne la question soulevée par notre ami ingénieur, il faudrait qu'il nous explique justement pourquoi ce glissement s'est opéré, je n'ai pas été convaincu par son raisonnement. En ce qui concerne, ce qui me paraît d'ailleurs plus important, le rapport des sexes dans la production et dans la consommation, dans la lecture de science-fiction, peut quand même, alors en ce qui concerne les auteurs, je ne discute pas, c'est, en parlant de science-fiction proprement dite, je veux bien que ce soit très équilibré, il n'y a pas de problème dans ce cas. En ce qui concerne les lectrices, je n'ai pas de statistiques très sûres sur les États-Unis, mais il y a quand même un indicateur. C'est Locus, la revue professionnelle, publie chaque année un très bon surveil, enfin, un très bon état de ses lecteurs. Or, au cours des 50 dernières années, à peu près, sur lesquelles nous avons des chiffres, le nombre d'abonnés féminins à Locus, en proportionnellement, n'a pratiquement pas évolué. Il est aujourd'hui de l'ordre de 20%. Ce qui recoupe, alors c'est évidemment un public très particulier que celui de Locus, parce que c'est pour les auteurs, les professionnels de l'édition, etc. Mais alors qu'il y a de très bonnes éditrices en matière de science-fiction, il est bizarre que ça ne se retrouve pas dans ce public qui, encore une fois, est très particulier, et il faut se méfier d'extrapolation. Mais bon, pour moi, c'est toujours des indices qu'on attrape, puis on les met ensemble. Et c'est de la méta-analyse.
I would agree with you that the readership of Locus is not necessarily representative. It is a professionally oriented, and for hardcore fans, which are not, in my experience, representative of a broader readership.
Merci à tous. Si vous voulez parler plus longuement de ce sujet, vous pouvez bien sûr parler avec nos auteurs en dehors de ce panel. Vous pouvez aussi revenir dimanche pour la session qui parlera spécifiquement de ce thème. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à continuer à vous balader sur cette manifestation. Puis on peut effectivement les remercier grandement pour ce jeu.